brouillon de lecture. Brouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner éventuellement envie de le lire à votre tour. Et ce, confortablement installé chez vous en écoutant la lecture de quelques extraits choisis par Hervé ou Catherine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à la bibliothèque de Vineuil, puisque nous sommes exceptionnellement en public. Ça ne nous arrive pas souvent. Nous avions fait une première tentative au grenier de Vineuil,
oui,
qui avait un petit peu tourné court, on doit le dire. C'était le 14 mars 2020,
et oui,
deux jours avant le premier confinement. Et on n'avait pas eu un succès fou, je me souviens.
La personne présente avait l'air contente.
C'est ça. Donc eh ben, nous persévérons, nous allons essayer d'aller un peu à la rencontre du public. Merci au public d'être là. Et merci donc à la bibliothèque de nous accueillir. Bibliothèque qui est représentée aujourd'hui par Lucie. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Voilà. Lucie, vous avez représenté la bibliothèque aujourd'hui, mais vous n'êtes pas seule à travailler ici.
Non, non, nous sommes une équipe de 4 salariés accompagnés de bénévoles, une petite dizaine de bénévoles. Voilà, donc on fonctionne tous ensemble pour faire vivre cette bibliothèque.
Une bibliothèque
en bonne intelligence.
Où il se passe...
Oui, oui, complètement.
Pas mal de choses, mais nous allons en reparler tout à l'heure. Dans un premier temps, nous allons parler du livre qui a été choisi aujourd'hui. Et je me tourne vers Catherine, puisque c'est elle qui va lire aujourd'hui.
Mm-hmm.
Que vas-tu nous lire, Catherine ?
Eh bien, je vais lire un texte qui n'est pas un roman. Ça nous arrive parfois. C'est plutôt un documentaire, si on peut dire. Et nous l'avons choisi, n'est-ce pas Hervé, grâce à une suggestion de Dominique.
Eh oui,
on peut le dire. Oui.
Voilà, c'est un texte de Florence Aubenas qui, peut-être vous vous en souvenez, c'est pas si vieux, était présidente des derniers rendez-vous de l'histoire. Et on trouvait que c'était une bonne idée de choisir un texte de Florence Aubenas. On n'en a jamais lu.
Non, jamais.
Voilà.
Même si ça ressemble un petit peu à notre émission du mois de octobre.
Octobre, c'est ce qui me gênait un peu. On va croire que je suis une obsédée du travail, puisque en octobre, j'avais lu des extraits de travaux de Georges Navelle. Donc c'est vraiment aussi sur
le monde du travail.
Le monde du travail.
Mais on a choisi aussi ce livre pour la portée sociale qu'il représente, quoi. Et donc, il faut le dire, ça n'est pas un roman, c'est un reportage,
voilà.
une enquête, on va dire, vraiment une enquête.
Voilà.
Réalisée donc par Florence Aubenas, qui est journaliste et grand reporter au journal Libération.
Et qui a fait d'ailleurs quelques reportages qui ont été remarqués. Hein, elle a travaillé...
Oui, tout à fait. Elle a travaillé dans des conflits, elle a couvert quelques conflits.
Voilà, Bagdad en 2005.
C'est ça, en Irak, donc au Rwanda, au Kosovo, en Afghanistan... Oui.
Elle avait travaillé aussi, je crois, sur le procès d'Outreau.
Mmh.
Et le procès d'Outreau, oui.
Voilà.
Exactement. Donc c'est quelqu'un qui, comment on dit, se plonge en tous les cas, qui aime utilisons ce terme,
se plonger
dans un milieu pendant quelques mois, le temps de réaliser son enquête. C'est comme ça qu'elle fait.
Elle fait de l'investigation.
De l'investigation, voilà le terme que je ne trouvais pas.
Et donc avec le quai de Ouistreham.
Eh bien, avec le quai de Ouistreham, Florence Aubenas a choisi de s'insérer dans le milieu des demandeurs d'emploi, des travailleurs précaires. Alors, il faut savoir que ce livre n'est pas un livre récent. Son dernier, vous l'avez peut-être lu, c'est L'Inconnu de la Poste. C'était l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. C'est pas très vieux. Celui-ci, il a plus de 10 ans. Il a dû sortir en 2010.
Voilà.
Et donc, il est sorti à une période, vous en souvenez sûrement, on parlait toujours des subprimes. C'était donc en 2009, c'était la crise économique. 2008 aux États-Unis, puis c'est venu jusque chez nous vers les années donc 2009-2010. Et donc, elle a fini donc par affecter l'ensemble des pays industrialisés. Le taux de chômage a grimpé en flèche dans tous ces pays, la France y compris. Voilà.
Et Florence Aubenas a donc choisi de devenir elle-même une demandeuse d'emploi. Et elle le précise au début du livre, sans formation. Ben oui, parce que formation, elle en a une, elle est journaliste, mais là, elle ne pouvait pas le dire. Donc, elle s'est présentée sans
elle avait le bac, elle disait qu'elle avait le bac.
Elle disait qu'elle avait le bac, oui, c'est exactement ça. Bon, eh ben, on a assez parlé. On passe à la lecture, Catherine ?
On va essayer.
Bon, allez. Allons-y, jingle.
La crise. On ne parlait que de ça, mais sans savoir réellement qu'en dire, ni comment en prendre la mesure. On ne savait même pas où porter les yeux. Tout donnait l'impression d'un monde en train de s'écrouler. Et pourtant, autour de nous, les choses semblaient toujours à leur place, apparemment intouchées. Je suis journaliste. J'ai eu l'impression de me retrouver face à une réalité dont je ne pouvais pas rendre compte parce que je n'arrivais plus à la saisir. Les mots même m'échappaient. Rien que celui-là, la crise, me semblait tout à coup aussi dévalué que les valeurs en bourse. J'ai décidé de partir dans une ville française où je n'ai aucune attache pour chercher anonymement du travail. L'idée est simple. Bien d'autres journalistes l'ont mise en œuvre avant moi avec talent. Un Américain blanc est devenu noir, un Allemand blond est devenu turc, un jeune Français s'est transformé en SDF, une femme des classes moyennes en pauvre, et je dois en oublier. Moi, j'ai décidé de me laisser porter par la situation. Je ne savais pas ce que je deviendrais et c'est ce qui m'intéressait. Caen m'a semblé la cité idéale, ni trop au nord, ni trop au sud, ni trop petite, ni trop grande. Elle n'est pas non plus très éloignée de Paris, ce qui semblait pouvoir m'être utile. Je ne suis revenue chez moi que deux fois en coup de vent. J'avais trop à faire là-bas. J'ai loué une chambre meublée. J'ai conservé mon identité, mon nom, mes papiers, mais je me suis inscrite au chômage avec un baccalauréat pour seul bagage. J'affirmais m'être tout juste séparée d'un homme avec lequel j'avais vécu une vingtaine d'années et qui subvenait à mes besoins, ce qui expliquait pourquoi je ne pouvais justifier d'aucune activité professionnelle durant tout ce temps-là. Je suis devenue blonde. Je n'ai plus quitté mes lunettes, je n'ai touché aucune allocation. Avec plus ou moins de certitude et d'insistance, de rares personnes se sont arrêtées sur mon nom. Une conseillère d'insertion, une recruteuse dans un centre d'appel, le patron d'une entreprise de nettoyage. J'ai nié être journaliste et plaidé l'homonymie. Les choses en sont restées là. Une seule fois, une jeune femme dans une agence d'intérim m'a démasquée dans les règles de l'art. Je lui ai demandé de garder le secret ce qu'elle a fait. L'immense majorité de ceux et celles que j'ai croisés ne m'ont pas posé de questions. J'avais décidé d'arrêter le jour où ma recherche aboutirait, c'est-à-dire celui où je décrocherais un CDI. Ce livre raconte cette quête qui a duré presque 6 mois, de février à juillet 2009. Les noms des personnes et des entreprises ont été volontairement modifiés. À Caen, j'ai gardé ma chambre meublée, j'y suis retournée cet hiver écrire ce livre. Paris, janvier 2010. J'ai déjà fait le tour des agences d'intérim de Caen. Elles se concentrent dans quelques rues autour de la gare et sont presque toutes construites sur le même modèle, une pièce vide avec un comptoir. Dans l'une, la première je crois, mais je finis par les confondre, j'annonce triomphalement « j'accepterai tout ». Ici, tout le monde accepte tout, dit le jeune garçon derrière l'ordinateur. Je lui demande « mais ce qu'il y a en ce moment ?» Rien. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school.
They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Bon, ben, les choses étant posées sur cet avant-propos, Florence Aubenas va continuer la suite logique de tout demandeur d'emploi, aller s'inscrire à Pôle emploi.
L'annonce. Tout le monde m'avait mise en garde. Si tu tombes sur une petite annonce pour un boulot sur le ferryboat à Ouistreham, fais attention, n'y va pas. Ne réponds pas, n'y pense même pas. Oublie-la. Parmi ceux que j'ai rencontrés, personne n'a travaillé là-bas, mais tous en disent la même chose. Cette place-là est pire que tout. Pire que dans les boîtes de bâtiments turcs qui te payent encore plus mal qu'en Turquie et parfois même jamais. Pire que les ostréiculteurs qui te font attendre des heures entre les marais avant d'aller secouer les poches en mer par n'importe quel temps. Pire que dans le maraîchage qui te casse le dos pour des endives ou des carottes. Pire que les grottes souterraines de Fleuride, ces anciennes carrières de pierre, puis abris anti-aériens pendant la guerre devenus aujourd'hui des champignonnières. Qui te laisse en morceaux au bout d'un après-midi de travail. Pour les pommes, on en bave aussi, mais la saison commence plus tard. Ces boulots-là, c'est le bagne et la galère réunis, mais tous valent mieux que le ferry de Ouistreham. Comme tous les matins, je viens d'arriver à Pôle emploi. J'y ai mes habitudes maintenant. Je connais l'imprimante qui fonctionne correctement, le téléphone où il est presque possible de s'isoler, la manière de changer le papier de la photocopieuse. En général, je rentre, je fonce en essayant de viser le seul ordinateur qui permet de consulter les annonces assis et pas debout devant un petit comptoir. Il est libre aujourd'hui. Ça doit être un signe de la Providence, j'en suis sûre. Je retire mon bonnet, j'installe mon manteau sur le dossier de la chaise avec soin parce qu'il est souvent trempé. Je sors un stylo, un papier et l'énorme dossier en plastique rose avec des intercalaires transparents où je range les documents concernant ma situation. Tous les chômeurs en ont un, même ceux qui ne savent ni lire ni écrire. C'est notre signe distinctif. Certains arrivent même à évaluer chez les autres le temps et l'énergie mis à la recherche d'un emploi rien qu'à la taille et à l'organisation de leur dossier, comme les biologistes qui déterminent l'âge des hannetons à la grosseur de leurs articulations. À l'accueil, un type qui transpire excessivement est en train de protester. Mais je sais que j'ai pas rendez-vous, mais je voudrais juste vous demander de supprimer mon numéro de téléphone sur mon dossier. J'ai peur qu'un employeur se décourage s'il essaie d'appeler et que ça ne répond pas. Pourquoi ? Demande l'employé qui est aujourd'hui une blonde de petite taille. Il marche plus. Qu'est-ce qui marche plus ? Mon téléphone. Pourquoi il marche plus ? On me l'a coupé pour des raisons économiques. Mais vous pouvez pas venir comme ça, il faut un rendez-vous. Bon, on va se calmer, je recommence tout. Je voudrais un rendez-vous, s'il vous plaît, madame. La jeune femme blonde paraît sincèrement ennuyée. Je suis désolée, monsieur, on ne peut plus fixer de rendez-vous en direct. C'est pas notre faute, hein. Ce sont les nouvelles mesures. Nous sommes obligés de les appliquer. Essayez de nous comprendre. Désormais, les rendez-vous ne se prennent plus que par téléphone. Mais je n'ai plus le téléphone. Ah, il y a des postes à votre disposition au fond de l'agence. Mais je vous préviens, il faut appeler un numéro unique, le 3949, relié à un central qui vient d'être mis en place. Il est pris d'assaut. L'attente peut être longue. Longue ? Parfois plusieurs heures. Autour de ma chaise, mon manteau a fait des petites rigoles d'eau sur le sol. Ce matin, j'attends la réponse pour un poste d'agent de nettoyage dans un centre médico-social, de veilleur de nuit dans un hôtel à Caen, de femme de ménage dans une parfumerie au centre commercial Mondeville 2 et de vendeuse dans une jardinerie. Sur l'ordinateur, le programme qui recherche les offres correspondant à mon dossier s'est mis en marche, essentiellement du ménage, un peu de vente, des travaux saisonniers, en somme tout ce qui passe et ne nécessite aucune qualification. Certains jours, il n'y en a pas plus d'une vingtaine pour toute la basse Normandie. Mes préférées sont celles qui précisent « débutant accepté ». Elles me donnent l'impression que les portes se déverrouillent, que quelque chose devient possible. Ça n'arrive presque jamais. Voilà des jours que je n'ai pas vu passer une proposition d'emploi à plein temps, pour un contrat à durée indéterminée ou un salaire au-dessus du SMIC. Un agent de Pôle emploi m'a expliqué que c'était normal. Ce type d'emploi n'existe tout simplement plus dans votre circuit à vous. Bientôt, il n'existera peut-être plus nulle part, on ne sait pas. Devant moi, les offres du jour ont commencé à apparaître. Je les connais presque toutes par cœur. Ce sont les mêmes qui tournent en boucle, parfois pendant des jours. À Deauville, vous nettoierez les extérieurs d'un magasin de luxe, trottoirs et vitres. Vous travaillerez 1h30 par jour. À Bréville, dans une collectivité, vous serez cette personne polyvalente chargée du service à l'assiette, de la plonge, du ménage, des communs. À Mondeville, vous nettoierez un magasin dans la ZAC de l'Étoile le mardi et le mercredi, 9h30 à 10h30. À Caen, chez Quick Horse, vous devrez être capable de faire les pizzas, les livrer à mobilette, entretenir le loco du travail 7 jours sur 7, etc., etc. Ah, je repère une nouvelle annonce. Société de nettoyage à Ouistreham cherche employé pour travailler sur les ferries. Débutant accepté. La voilà, la fameuse petite annonce. J'appelle immédiatement, c'est irrésistible. Il faut se présenter le jour suivant à 9h30 au siège de l'entreprise quai Charcot à Ouistreham avec papier d'identité et photos en couleur. Le lendemain, un ciel blanc a tout enveloppé, pas tout à fait du brouillard, plutôt une brume légère. Les locaux de l'entreprise sont plantés là. Les locaux de la société ressemblent aux baraques à bateaux qui les entourent, bas et fonctionnels. Dans l'entrée, un gaillard à la moustache couleur de cidre est en train d'engueuler un candidat. C'est la deuxième fois que vous venez postuler. La première fois, vous aviez des problèmes d'emploi du temps et de voiture. Est-ce que vous les avez résolus ? Non ? Alors pourquoi vous revenez ? Au revoir. Les autres, asseyez-vous autour de la table. Nous sommes une dizaine, hommes et femmes mélangés. Il se révèle vite que le gaillard à moustache ne peut être que le patron, le grand patron, comme je l'entendrai désigner plus tard ou plus respectueusement encore par son seul prénom, Jeff, que les gens du ferry, surtout les plus humbles, aiment faire sonner dans leurs conversations. Jeff habite une autre ville à plus de 100 km de Ouistreham. Tous les jours avant l'aube, il avale 2 heures de route en voiture pour arriver sur le port au petit point du jour, un peu avant qu'accoste le premier ferry, qui lui vient d'Angleterre. Jeff nous regarde l'un après l'autre, assis autour de la table. Personne n'a osé enlever son manteau. Un type a même gardé son casque de moto et ses gants comme s'il s'attendait à se faire éconduire lui aussi, et de telle manière qu'il lui faudrait décamper précipitamment. Vous sortez vos papiers d'identité, je les photocopie, vous ferez une formation demain matin, vous commencerez après-demain. Il y a en général 3 ferries par jour, à 6h, à 14h, à 21h30. On fait le ménage pendant l'escale, entre le moment où le bateau arrive et celui où il repart. Pour commencer, vous serez embauché sur l'horaire du soir, 6 jours par semaine, congé le mercredi. La vacation à bord va jusqu'à 22h30, ça fait 1 heure payée en salaire de base. Après, on verra. Pas de questions ? On passe nos documents. Ah, une dernière chose, dit Jeff. Si vous venez de Caen, il vous faut une voiture. Il n'y a pas de bus correspondant à vos horaires de travail. Je vous conseille aussi de vous regrouper pour partager les frais d'essence, sinon vous mangerez toute la paye en carburant. Vous toucherez un peu plus de 250 euros par mois, avec des primes les jours fériés ou les dimanches. Il brandit nos papiers en éventail devant lui comme un jeu de cartes. Pas de regrets ? Tout le monde a bien entendu ? Personne ne reprend ses billes ? Il me regarde. Vous avez une voiture ? Je mens immédiatement. Oui, bien sûr. Jeff continue de me regarder. Si vous le dites. Il inscrit nos noms, nous rend les cartes. Vous pouvez partir. Ça y est, c'est fait. On a signé pour 6 mois. Ça a duré 10 minutes et hormis Jeff, je n'ai presque aucun souvenir de ceux qui étaient avec moi autour de la table. Il me reste à trouver une voiture pour demain. Je pense d'abord à Philippe. On s'est rappelé 1 ou 2 fois depuis notre déjeuner à Bayeux et au moment où il décroche, je me souviens qu'il n'a aucun moyen de transport. Je me dis que c'est idiot de lui téléphoner. Il faut que je trouve une voiture. Je vois plus qu'une personne pour me sauver. Victoria. Je galope vers le quartier Vaucelles. Victoria range des papiers sur la table de la salle à manger par petits tas devant elle. Elle fait des listes des choses à faire, à des personnes à appeler. Elle a entendu parler d'un couple d'amis qui veut vendre une vieille voiture dont il ne se sert plus. Ils ne sont pas pressés, ils pourraient me la prêter quelques semaines, le temps de me dépanner avant de s'en séparer. On part immédiatement la voir. Ses propriétaires l'ont surnommé le tracteur à cause de son bruit et de son allure. C'est une Fiat vert-bouteille, moteur diesel 1992, avec siège enfant à l'arrière. Je ne peux pas m'empêcher d'embrasser ses propriétaires.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Le croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras pourra plus faire demi-tour. Enchaîner, enchaîner. Enchaîner, enchaîner. Juste après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés.
C'est affligeant, cette réalité des petits boulots, n'est-ce pas, hein, quand même. Ce qui m'a frappé le plus, ce sont les horaires. Il y a les ferries qui arrivent le matin, le midi, le soir, et on demande à ces gens comme ça de venir travailler pendant une heure le matin, puis pendant quatre heures, eh bien, ils ne font rien, ils se débrouillent, mais c'est votre problème, c'est pas le nôtre.
Et en général, ils font une heure aller, une heure retour, en plus de l'heure de travail.
Oui.
Donc ça leur prend trois heures.
À croire que ces gens n'ont aucun droit. Et au début de ça, oui, ça fait une petite coupure. Au début de ça, ça avait commencé par une scène, un tantinet rigolote, on peut dire ce terme, un tantinet rigolote. Mais en fait, quand on voit la suite, ça fait froid dans le dos, hein, vraiment.
Ça fait un petit peu rire jaune.
Ouais,
moi, ça m'a fait penser à une scène de moi, Daniel Blake, de Ken Loach. Où on a une situation un peu de ce type, un peu kafkaïenne comme ça.
Oui, on fait vraiment une émission gay aujourd'hui. Bon, la prochaine fois, on essaiera de choisir une comédie.
Un beau conte de fées.
Un beau conte de fées, exactement. Bien après s'être inscrite à Pôle emploi, Florence Aubenas a donc fini par décrocher ce premier emploi. C'est ça, hein. Donc, eh ben, nous allons découvrir maintenant la réalité de ce premier emploi. Catherine, c'est à toi.
Nous sommes cinq nouveaux embauchés ce jour-là à l'embarcadère. Arriver jusqu'au ferry est un nouveau périple. Il faut pénétrer dans la zone sous-douane en montrant un badge avec une photo fournie par la société. Parfois, des vigiles sortent de la guérite et s'accroupissent pour ausculter les essieux ou les habitacles en parlant de trafic et de clandestins. Nous nous postons devant un bâtiment composé d'une petite salle nue flanquée de deux toilettes. Nous attendons l'autocar de la compagnie qui nous conduira jusqu'au ferry. La distance entre les deux ne doit pas excéder 700 mètres, mais il est interdit de les effectuer à pied. Entre l'attente, le trajet en car, l'attente à nouveau avant de grimper à bord, il faut compter une bonne demi-heure supplémentaire. Les autres employés arrivent un à un sur le quai, une quarantaine peut-être, des filles surtout, quelques hommes aussi. Personne n'a assez dormi, chacun garde le nez dans son reste de sommeil, le visage sans couleur et encore froissé de la nuit, des cheveux alourdis, peu de mots, même pour demander une cigarette. Quand l'un sort un paquet, les regards quêtent, les mains se tendent, des hochements de tête miment, merci, parfois un reniflement. Les gestes ressemblent à des frissons, tremblants et raides, tendus contre l'humidité qu'on sent prête à se faufiler entre les couches de vêtements à chaque mouvement, comme des doigts glacés jusqu'à la peau tiède. Quelques-uns nous soufflent des « bonjour », mais ce sont des « bonjour sévères », me glisse Marie-Lou sur le qui-vive. Nous portons tous la blouse rayée, vert et blanche, siglée du nom de la boîte. À bord, il est interdit de monter avec autre chose que son badge et un stylo qui permet de signer la feuille de présence. Sur un panneau lumineux, des lettres vertes, brillantes, écrivent dans le sombre du ciel « Mer calme, peu agitée ». On sent plus qu'on ne la voit au bout du quai, une ombre silencieuse d'un gris plus clair avec parfois des traînées blanches d'écume. Le car arrive. Sur la passerelle, serrée contre la rambarde, nous attendons que les passagers descendent pour investir les lieux. Bientôt, je ne ferai plus attention à eux, happé bien plus sûrement par le monde qui va devenir le mien. Mais c'est mon premier jour et je ne peux m'empêcher de dévisager tous ces gens avec leurs valises à qui je lance consciencieusement des bienvenus retentissants. Personne ne répond. Parfois, l'un d'eux me regarde aussi étonné que si le paquet de cordage enroulé sur le pont lui avait adressé la parole. Je suis devenue invisible. Le ferry se donne le style d'un paquebot de croisière, version populaire. Chaque chose est là, à sa place, flambante et astiquée comme veut la tradition. Le laiton, le bois verni, la moquette, les cuivres, les fauteuils club, le bar et ses alcools. Il manque les sensations qui devraient les accompagner, celles du moelleux et du feutré. Le menu routier du restaurant offre des frites à volonté en self-service et les affiches anciennes vantant la côte de nacre sont des reproductions. Morissette, la chef d'équipe, est désignée pour nous former. Elle a les cheveux très courts, blond platine, un physique taillé pour l'ouvrage. Son humeur monte et descend comme la mer et nul ne sait quelle Morissette va répondre quand on s'adresse à elle. Ça lui plaît, elle en joue. Marie-Lou et moi restons collées l'une contre l'autre en essayant de ne pas commettre d'impair. Vous deux, là, vous allez faire les sanis. C'est le premier mot que j'apprends à bord. Sani veut dire sanitaire, qui lui-même signifie toilette. Faire les sanis, c'est laver les toilettes, tâche majoritaire à bord et exclusivement féminine. Parfois, on dit à un employé homme « tu vas faire les sanis », mais ça ne se réalise jamais, c'est forcément pour faire une blague, même avec les fortes têtes ou les souffres-douleurs. Les hommes passent l'aspirateur, l'auto-laveuse, nettoient les restaurants ou les bars, dressent les couchettes pour les traversées de nuit. Jamais ils ne frottent la cuvette des WC. Aujourd'hui donc, nous allons être formés au sani des cabines passagers. Morissette nous met dans les mains un panier en plastique avec deux pulvérisateurs et une vingtaine de chiffons, puis nous entraîne en courant dans le premier des interminables couloirs du ferry. Si étroit qu'il faut se plaquer contre la paroi lorsqu'on se croise. Les cabines sont d'un seul côté, environ tous les 2 mètres. Morissette ouvre la porte de la première et se précipite dans l'espace minuscule où s'imbriquent 4 courchettes superposées et un cagibi de toilette, comprenant lui-même un lavabo, une douche et des WC. Elle se jette à terre si brusquement que je pense d'abord qu'elle a trébuché. Je veux la relever, mais sans même un coup d'œil derrière elle, elle s'ébroue pour me repousser et à genoux sur le carrelage se met à tout asperger avec un pulvérisateur du sol au plafond. Puis, toujours accroupie, elle chiffonne, sèche, désinfecte, astique, change le papier toilette et les poubelles, remet des savonnettes et des gobelets en une rangée impeccable au-dessus du lavabo, vérifie le rideau de douche. Tout a duré moins de 3 minutes. C'est le temps imparti pour cette tâche. Morissette se rue hors du cabinet de toilette. Dans la cabine, elle époussette tout ce qui peut l'être. Fait briller les miroirs, ramasse les papiers, 30 secondes. Dans le même temps et le même espace, s'agitent au moins 2 autres employés qui changent les draps, des couchettes, on dit faire les bannettes, et passent l'aspirateur, on dit être d'aspi. Tous réussissent à s'éviter, les bras et les jambes se croisent au millimètre près, le drap s'envole au ras des têtes sans les frôler, à un rythme parfait que la frénésie déployée par chacun dans sa tâche et l'étroitesse des lieux rendent particulièrement spectaculaire. Une des filles chante « Il jouait du piano debout, d'autres rythment le refrain d'un coup de hanche. Morissette se retourne, tout doit être impeccable. Faites surtout attention à ne laisser aucun cheveu. N'oubliez pas de prendre un chiffon de couleur différente pour les water, d'éponger chaque goutte dans la douche, surtout si elle a servi récemment, de ne laisser aucun savon usagé, de jeter tous les rouleaux de papier toilette entamés. J'oublie tout immédiatement dans un effarement proche de la panique. Quand Morissette annonce « « Bon, maintenant, allez-y. » Je manque me trouver mal. Elle nous fait un grand sourire. « Vous avez de la chance, elle est de bonne humeur, » dit une fille. En un quart d'heure, mes genoux ont doublé de volume. Mes bras sont dévorés de fourmis et j'écume de chaleur dans le pull que j'avais cru prudent de garder. Je n'arrête pas de me cogner dans les gens, les meubles. Je suis pas loin d'éborgner une collègue avec un pulvérisateur pendant qu'elle fait les bannettes. Elle ne se trouble pas. Moi, le mois où j'ai débuté, j'avais des crampes dans tout le corps et j'ai perdu au moins 6 kilos. Régulièrement, j'entends derrière moi le cri de Morissette qui déchire le vacarme de la coursive. « Florence !» Ça veut dire que j'ai fait une connerie. Viens là, tu vois rien dans la douche, les poils là sur le côté. Il faut recommencer à frotter devant elle, à quatre pattes dans les sanies, pendant qu'elle continue de cravacher le reste de la troupe sans regarder derrière elle. Allez les filles, dépêchez-vous, faut tenir la cadence, on n'a pas fini. Je repars dans l'autre sens, à garde, non sans ressortir un certain soulagement quand je me rends compte que la personne que je viens de renverser est la seule que je connaisse, Marie-Lou. Sa métamorphose est stupéfiante. Ben dis donc, qu'est-ce que t'es rouge et trempée? On dirait que t'es passée à la machine à laver. Elle outrait. Non mais tu t'es pas vue? T'es mauve, je t'aurais pas reconnue. Partout ça court, ça rigole, ça moucharde, ça s'épaule. Ça n'arrête jamais dans une agitation et un bruit que rien ne fait retomber. C'est un raffut de seaux qui s'entrechoquent, d'eau qui coule, de fracas d'aspirateurs. Aujourd'hui tout le monde houspille, boule puante. Une femme très petite, très ronde et réputée ne jamais se laver. Son nom vole à travers les couloirs, gueulé de cabine en cabine. Vous avez vu les sanies que vient de faire boule puante? Dégoûtant. Ah, c'était plus propre avant qu'elle passe. Où t'es, boule puante? Elle est par là, je la sens. On la suit à l'odeur. Je suis tombée sur elle, j'ai tiré la chasse. On rit, on chante. Boule puante, puis on tombe nez à nez avec elle et tout le monde s'égaye en gloussant avec insolence. Ça reprend plus loin. Si vous attrapez boule puante, poussez-la sous la douche et ouvrez l'eau. Chez les filles, les jeunes appellent les vieilles les vieilles. Les vieilles disent la racaille pour les jeunes. Des hommes, personne ne dit rien, avec une indulgence qui parfois ressemble à du mépris. Eux non plus ne se risquent pas à trop parler, sauf quand ils draguent. L'heure de travail dure une seconde et une éternité. En signant les feuilles de présence, je distingue enfin les visages autour de moi. Il y a le monde entier sur le ferry. Des belles, des moches, des demi-clochardes, des mères de famille, des petites paysannes, des créatures ou des top modèles. Mais on se côtoie, on se bouscule dans une sorte de fraternité que lisse le port de l'uniforme et la dureté de la tâche. Une jeune fille ravissante avec un piercing posé comme une mouche au bord de la lèvre me demande sur quelle vacation j'ai été embauchée. « Le soir, je réponds. Elle paraît considérer que c'est une chance. Elle me dit, tu verras, il y a une autre ambiance. L'après-midi a quelque chose de morbide, mais ça passe. Le matin est vraiment horrible. La seule chose drôle, c'est de voir les vieilles pas maquillées. » Je reconduis Marie-Lou en voiture pour fêter notre nouvel attelage. Elle a déjà deux boulots dans le ménage en CDD et elle précise, « Bien sûr. » Il y a celui du matin, son préféré, pour lequel elle voudrait décrocher le CDI. Elle en énumère les qualités. Le chef est gentil, il n'y a pas trop à faire, on n'a personne sur le dos. C'est de 6h30 à 8h30 dans une grande surface avant l'ouverture. Le soir, de 18h45 à 20h, elle nettoie les bureaux chez Youpi Metal. Son supérieur l'a convoqué l'autre jour. Vous téléphonez avec votre portable pendant les heures de travail, vous faites la conversation avec vos collègues, vous allez être licencié. Marie-Lou a reçu une lettre qu'elle n'a pas bien comprise. Il en ressortait qu'elle devait aller s'expliquer au siège de Youpi Metal à Lisieux. Son homme a haussé les épaules, il ne sait pas lire. Lisieux en train, ça fait cher, et en scooter, ça fait loin. Le rendez-vous tombait à 9h, ce qui ne lui laissait pas le temps de finir son premier boulot. Toute l'affaire lui paraissait hors de prix, compliquée. Le chef lui a fait miroiter que la feuille de paye est plus intéressante quand on quitte un travail. Tu vas toucher d'un coup le rattrapage des congés payés, des morceaux de primes, ça te fera au moins 200 euros. En plus, une sorte de parachute doré, quoi. Marie-Lou s'est laissée pousser dehors. Ça fait de l'argent quand même, non? Elle a signé pour le ferry. Nous calculons ensemble comment faire pour arriver à l'heure. Depuis quand le trajet prend une demi-heure? Pour rattraper le car qui nous conduit au ferry, il faut être à 21h sur le port. Autrement dit, nous avons à peu près une heure de déplacement et d'attente dans chaque sens. Comme seul le temps passé à bord est payé, on perd 2 heures pour en gagner une. Le visage de Marie-Lou ne reflète aucune contrariété. Je lui demande « Tu penses que c'est trop de temps gâché pour le salaire qu'on touche ?» Elle comprend pas. Douche sort pour ne pas savoir que c'est normal. Pour le boulot du matin, elle a 3 heures de trajet.
Florence Aubenas décrit une réalité très dure, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et Je voudrais ajouter qu'il y a des pays où c'est encore pire. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a un contrat qui s'appelle « zéro heure ». Ça veut dire qu'un employé qui a signé ce type de contrat avec une entreprise n'a pas le droit de chercher d'autres emplois puisqu'il a signé un contrat, mais que le contrat précise bien qu'il peut y avoir zéro heure dans une semaine, donc on peut ne pas l'appeler. Et donc il n'a pas le droit de travailler. C'est comme ça. Ça s'appelle la flexibilité à l'anglaise.
Et ses employés n'ont aucun droit.
Eh bien, on pourrait le croire, oui. Ceci dit, en France, ils ont la médecine du travail, quand même, les travailleurs. Et donc, la scène suivante va parler de la rencontre avec le médecin du travail.
L'autre jour, sur le ferry, un des chefs a distribué les convocations à la médecine du travail en précisant « Ceux qui n'y vont pas seront virés ». Mon rendez-vous tombe cet après-midi. Un dispensaire près de la plage Rivabella, en face du casino municipal, au milieu des magasins de souvenirs en coquillages et des enfants qui mangent des gaufres au Nutella. C'est le Ouistreham que je ne connais pas, loin de notre morceau de quai. J'ai un goût de sel sur les lèvres, le ciel est plein de cerfs-volants. En arrivant sur la place avec la ville dans le dos, il y a une dernière rangée de constructions un peu disparates. Des kiosques, des parkings, des manèges, des échoppes. La plage commence juste derrière, une étendue de sable absolument plate qui mange les deux côtés de l'horizon sans qu'on parvienne à en voir la fin. La mer est là, vide et vivante. Devant le casino, je ne vois rien qui ressemble à une antenne de la médecine du travail. Je cherche, je cours, je reviens sur mes pas. Je finis par m'arrêter près d'une caravane devant laquelle je passe et repasse depuis tout à l'heure. Je l'avais prise pour une baraque de cartomancienne. Je grimpe 3 marches pour y demander mon chemin. Un écriteau est suspendu à côté de la porte. Médecine du travail. Je frappe. J'attends. Un médecin en blouse finit par ouvrir. Il me demande mon nom et, sans autre forme de salutation, annonce « Je vais vous peser ». Il a l'air infiniment las. Je commence à retirer mes chaussures. Quand j'arrive aux chaussettes, il me dit « Non, c'est pas la peine, restez comme ça ». Je grimpe sur la balance avec ma parka et mon sac sur l'épaule. Dans la caravane règne une demi-pénombre où je ne distingue que ses yeux aux prunelles errantes, bougeant sans cesse, ne fixant jamais rien. Il esquisse un geste vers une toise, puis renonce. « Combien vous mesurez ?» Je retrousse mes manches, ma manche de parka pour la tension, quelques tests oculaires, une ou deux questions. Je tiens mon manteau dans mes mains par habitude. Il paraît s'animer pour la première fois. « Assons les dents, ça vous fait mal, pas vrai ?» Ça a duré 5 minutes. Il me tend ma fiche, apte. Le soir au ferry, tout le monde se fout de moi. « Mais tu croyais quoi, qu'il allait te faire une visite ?» Corinne lève les yeux au ciel. « Ce n'est même pas la peine de penser à changer ses sous pour aller là-bas. De toute façon, elle trouve que les médecins sont tous les mêmes, chers et incompréhensibles, difficiles d'accès. » Il faut faire des papiers pour les remboursements et puis ces rendez-vous si longs à décrocher. Cette impression d'être reçue à regret parce qu'on n'a pas d'argent. La dernière fois, elle dit être restée 10 minutes. Le médecin ne lui a rien dit et à la fin, c'était le même prix quand même. De toute façon, est-ce qu'ils sont si forts que ça? Même Guillaume Depardieu a une star pourtant. Bah, regardez ce qui lui est arrivé. Tout le monde acquiesce. Suzon a pleuré quand il est mort. Ces gens-là sont des héros. Blandine connaît quelqu'un qui a eu la vache folle. Elle le dit avec un visage bouleversé d'horreur et de délectation. Les autres l'accusent de se vanter. Blandine crie « Non, non, c'est vrai, hein !» Suzon va chez les docteurs pour les enfants. Ceux-là, oui, ils sont bien. Mais pour soi, elle ne fréquente plus que les urgences à Caen. Faut prendre la voiture, on attend, mais c'est finalement plus pratique. Tout est sur place, au même endroit. On fait les examens d'un coup, pas besoin de revenir et on n'avance pas d'argent. Elle le dit souvent à son mari. « Tu vois, c'est bien, c'est comme l'hypermarché. » De tout ça, on pourrait parler des heures. C'est un des sujets de conversation préférés.
Il écrase sa cigarette, puis repousse le cendrier. Se
dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offerte notre société. Vous êtes dépassé et du fait vous êtes remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. De bar en bar, il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Il se décide à traîner, car il a peur d'annoncer à sa femme et son banquier la sinistre vérité. Être chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari trompé. Il ne rentre pas ce soir. Fini le golf et le bridge, les vacances à Saint-Tropez, l'éducation des enfants dans la grande école privée. Il pleure sur lui, se prend pour un travailleur. Il se sent dépassé et du fait il est remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Oh, 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 oh. Il s'en va de part en part. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir.
Aujourd'hui, nous sommes donc, on l'a dit en début d'émission, installés à la bibliothèque de Vineuil. Très belle bibliothèque d'ailleurs. Hein. Nous sommes bien installés dans des fauteuils tout blancs, en cuir, magnifiques. La salle est grande, aérée et tout. Et devant moi, il y a donc Lucie. Rebonjour Lucie.
Bonjour.
Alors j'ai une première question. Après tout, aujourd'hui on a choisi le Quai de Ouistreham. Est-ce que c'est un livre qui s'emprunte beaucoup ?
Alors, c'est un livre qu'on a à la bibliothèque et qui est actuellement d'ailleurs emprunté, et qui est emprunté très régulièrement. Donc là, aujourd'hui, vous ne pourrez pas le trouver à la bibliothèque. Par contre, sachez que vous pouvez le réserver si vous êtes déjà inscrit à la bibliothèque.
On peut donc réserver les livres à l'avance quand un livre n'est pas là.
Tout à fait.
Comme dans toutes les bibliothèques.
Exactement.
Je pense.
Bravo, Dominique.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans une bibliothèque ?
Eh ben, on peut faire plein de choses quand on vient dans une bibliothèque. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'accès à la bibliothèque, il est ouvert à tout le monde et qu'il est gratuit. Chez nous, la seule chose qui est payante, c'est s'inscrire pour pouvoir emprunter les livres pour les emmener à la maison.
Mais n'importe qui peut arriver à la bibliothèque et y entrer.
N'importe qui peut venir aux animations de la bibliothèque également, que ce soit les lectures comme aujourd'hui, les spectacles qui peuvent être organisés, les lectures pour les enfants. Voilà, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. C'est ouvert à tous, que vous soyez inscrit ou non à la bibliothèque. J'insiste là-dessus parce que c'est valable ici,
oui,
c'est valable dans toutes les bibliothèques.
Sous prétexte qu'on n'est pas inscrit, voilà. On ne se permet pas de rentrer.
Eh bien non. On peut venir travailler à la bibliothèque, on peut venir lire sur place, lire le journal, on peut venir...
Ne rien faire.
Il y a des gens, je crois, qui viennent faire la sieste dans certaines bibliothèques, discrètement.
Voilà, il ne faut pas ronfler, c'est tout.
Des fois, on attend juste que la pluie cesse.
Voilà. Ouais.
On peut faire tout ça.
On peut lire des revues, il y a des revues ici aussi.
Il y a des revues, il y a des documentaires, on reçoit ici la Nouvelle République, donc on peut se tenir au courant des informations. Il y a des postes informatiques pour travailler ou pour faire des recherches.
Il y a le canard enchaîné. Je ne lis le canard enchaîné qu'à la bibliothèque.
D'accord.
Et ça je l'achète par militantisme.
C'est bien.
Ça coûte cher de s'inscrire à la bibliothèque ?
Alors,
oui, moi j'essaye. Je vais essayer de rester sérieux au milieu de mes petits camarades.
Je vois.
C'est mon rôle.
Alors chez nous, l'inscription, elle est pour tout un foyer. C'est donc pour les habitants de Vineuil, c'est 15,10 € pour inscrire tous les habitants du foyer. Voilà.
15,10€ par an.
Par an.
Pour avoir le droit donc d'emprunter des livres.
Pour avoir le droit d'emprunter des livres. Alors,
autant qu'on veut.
Voilà. Alors par personne, ça va être 8 livres ou magazines, chacun, pour 3 semaines. Et en plus de ça, on a aussi des CD et des DVD qui sont aussi empruntables.
Pas cher. Hein.
Ah non, c'est pas cher. Je trouve ça extraordinaire. Pour 15€, on peut lire des centaines de livres.
Et bah voilà.
Exactement. Et donc, il y a des livres pour tout le monde. C'est pour les petits, des tout bébés, des 0 ans, des livres en tissu, des livres cartonnés. Et puis voilà, jusqu'à temps qu'on a envie de lire, on peut lire.
Moi, j'ai Lucie, mais derrière Lucie, il y a des gens et je vois que ça acquiesce.
Exactement. Et même pour les gens qui commencent à avoir des problèmes de vue, j'imagine qu'il y a des livres en gros caractères.
Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi des textes lus, donc on peut aussi écouter quelqu'un vous raconter une histoire, ce qui est fort appréciable. On a des liseuses aussi pour les personnes qui ont envie d'avoir une centaine de livres, hop, juste dans une poche, c'est possible. Il y a des ressources numériques, il y a plein de choses possibles dans cette bibliothèque, et mais dans toutes les bibliothèques.
Et vous faites un gros effort aussi sur les animations à Vineuil. Il se passe beaucoup de choses.
On essaye, oui, de faire beaucoup d'animations. Alors, on a un agenda qui sort tous les semestres avec des animations, alors des lectures pour les plus jeunes, des spectacles.
Si quelqu'un arrive à la bibliothèque en n'ayant aucune idée de ce qu'il veut lire, est-ce qu'on va le guider dans ses choix ?
On peut tout à fait, oui. Oui, on peut guider les gens en fonction de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils ont envie de lire, que ce soit sur des romans, de la bande dessinée, du documentaire. Si les gens arrivent avec une idée très précise aussi de choses qu'ils aiment, d'auteurs qu'ils aiment, et que nous, on ne les a pas sur place, on peut aussi, nous, en tant que bibliothèque, emprunter ces livres à la bibliothèque départementale, qui est la bibliothèque des bibliothèques, en fait.
Il y a un regroupement de toutes les bibliothèques au sein d'une bibliothèque départementale, c'est ce que vous venez de dire.
Exactement.
Ce qui fait que si vous n'avez pas un livre, vous allez l'emprunter ailleurs.
S'ils l'ont, on peut tout à fait l'emprunter pour l'avoir chez nous.
Voilà. Au total, ça donne un fonds extraordinaire, je suppose.
Oui, oui. Et en plus de cela, on peut aussi nous faire des suggestions d'achat si voilà, certaines personnes peuvent nous conseiller un livre.
Je ne suis même pas adhérent, par exemple. J'arrive, mais je dis, tiens, je voudrais tel livre. Et vous me dites, il n'y a pas de problème, on va l'acheter la semaine prochaine.
On peut dire ça, sachant qu'on est quand même obligé de voilà, faire des choix sur ce qu'on achète. Il y a une telle production éditoriale qu'on ne peut pas tout acheter, évidemment.
C'est évident, mais n'empêche, c'est possible quand même.
Oui, tout à fait.
Bien, nous allons reprendre et conclure notre émission. Je crois, Catherine, que tu voulais lire un dernier extrait.
Je rentre de mon remplacement du matin. Il est 8h, il traîne dans le ciel un reste de nuit. Il me semble avoir déjà une journée dans les jambes alors que je n'ai travaillé que 2 heures. Je me suis mise à calculer mes heures de sommeil avec autant de minutie que mes heures de travail. Je reviens du ferry à 23h30, je me lève à 4h30 pour le premier ménage. Dormir est devenu une obsession. Je gare le tracteur, je traverse la rue. À l'arrêt de tram, un type rose et frais téléphone à tue-tête. « Tu te souviens de la fille très blonde qu'on avait rencontrée en boîte au Margouilla à Heurtevent ? Elle est enceinte, des jumeaux. Et tu sais quoi ? Elle dit que c'est pas moi, mais mon copain, le petit David. Je trouve ça dégueulasse. Je suis sûre que c'est moi. En tout cas, je demande l'ADN. Hein. » Le soleil vient de sortir d'un coup, déjà tiède. J'ai ouvert ma porte, je me suis allongée tout de suite. Je voudrais dormir. Je n'y arrive pas. Je flotte dans une vague demi-conscience dont on me tire des fourmillements dans les bras dès que je m'assoupis vraiment. J'ai des frissons, la fatigue sans doute, car l'air est doux. J'ai du soleil plein les paupières malgré mes yeux fermés. Il faudrait que je bouge. J'y arrive pas non plus. Une mollesse comme quand on a la fièvre. Je devrais peut-être manger quelque chose. Je me souviens d'avoir avalé une baguette entière dans le tracteur avec un litre de Yop Coco, mais j'arrive plus à savoir si c'était hier soir au retour du ferry ou ce matin au retour du ménage. J'ai l'impression de passer mon temps à rouler, en pensant sans penser, la tête traversée par des combinaisons compliquées d'horaires, de trajets, de consignes. Ce souvenir d'arrêter l'alarme en arrivant à tel endroit, prendre la sortie sur la voie rapide pour aller dans tel autre, remettre les clés du local dans leur cachette, ne pas oublier de sortir la poubelle de la cafétéria. Mes premières semaines de remplacement sont terminées. L'Immaculée en a heureusement rajouté une autre derrière. La femme de ménage nous a fait porter un nouveau congé maladie, m'a dit Monsieur Médard avec un sourire jovial. Cette fois, j'ai l'impression que c'est bien fini. Deux autres entreprises de nettoyage m'ont depuis donné des contrats de quelques jours. Ils se sont arrêtés abruptement. Dans le premier, une fille de l'équipe m'a balancé un seau d'eau au visage. Elle estimait que c'était à moi de nettoyer une porte vitrée dans le hall d'une résidence. Moi, je soutenais n'avoir pas compris que j'avais à le faire. Bah, « Tu te bats pas ?» m'a demandé une collègue étonnée. Je me suis rendu compte que les autres avaient surgi sans que je sache comment des bâtiments alentour. Hommes et femmes avaient posé leur matériel et s'étaient rassemblés autour de nous. L'une a déballé une barre chocolatée, le pied posé sur un bac en plastique. Un type a arrêté sa tondeuse à gazon. Nous avions tous les traits bouffis par les mêmes horaires impossibles, par ce travail à la fois pénible et insuffisant, l'air grésillé d'une fatigue excédée, agressive. « Je crois qu'elle n'a pas fait exprès », j'ai dit. Puis comme personne ne bougeait, j'ai ajouté de m'avoir lancé un saut. Il y a eu une hésitation, le boulot a repris, geste à geste, à regret. En partant, personne ne m'a dit au revoir. J'ai pas été trop surprise que la société ne me rappelle pas. Dans le deuxième contrat, j'étais seule à la fermeture des bureaux, dans un siège administratif. Les employés partaient un à un pendant que je commençais à nettoyer. Pour une fois, j'avais l'impression de contrôler un peu la situation. Remplir les bacs d'eau, remettre les fauteuils bien droits, frotter les téléphones. Il ne restait plus qu'une femme sur un plateau collectif, une petite souris affairée remuant des papiers par saccades. Quand un homme a surgi d'une pièce voisine pour se précipiter sur elle, il a soufflé « Enfin, nous sommes seuls ». Il avait déjà les mains sur ses épaules, tandis que dans le même mouvement, son corps à elle se calait entre la chaise et le bureau, comme s'il prenait de lui-même une position familière. Elle restait silencieuse, lui parlait sans cesse, dans un monologue théâtral dont ne parvenait que la musique. Je n'étais pas cachée, au contraire, je me trouvais à quelques mètres d'eux, en train de passer l'aspirateur avec fracas. Je m'efforçais de faire encore plus de bruit pour me signaler, heurtant les meubles, secouant les poubelles. Il ne m'entendait pas. Ne me voyaient pas. Je n'étais plus pour eux qu'un simple prolongement de l'aspirateur, la même mécanique, tout juste agrémentée d'une blouse et de gants en plastique. J'ai fini par sortir en disant bêtement « Je suis désolée ». J'ai pensé à Victoria, assise dans sa cuisine devant un café avec les œufs de ses poules dans le panier en fil de fer près de la fenêtre. Victoria qui me regarde de ses yeux verts pailletés d'or, ses yeux de filou et qui dit « Tu verras ». Tu deviens invisible quand tu es femme de ménage. Tu peux pas savoir le nombre de choses qu'on a dites ou faites devant moi que je n'aurais jamais dû savoir. Pour le reste, je te donne pas de conseils. Tout a tellement changé que je serais moi-même incapable de travailler aujourd'hui. J'ai terminé le boulot dans les autres salles avant de revenir, discrètement, cette fois dans le grand bureau. De loin, j'ai aperçu la petite souris de dos en soutien-gorge. Lui portait encore son blouson. Je devais me rendre au ferry, je suis partie sans terminer la pièce. Se sont-ils plaints? Sous quel prétexte? M'a-t-on dénoncé pour ne pas avoir fini le travail? Peut-être la société de nettoyage n'avait-elle tout bêtement plus besoin de moi? Aucune raison n'est donnée. Jamais, sur une embauche, ni sur un congé. Quand j'ai téléphoné pour être payée, une secrétaire m'a dit, étonnée, « Mais les périodes de test ne sont pas rémunérées ». Au besoin, on vous appellera.
Eh bien, notre émission touche à sa fin. Merci Catherine pour cette lecture. Merci encore à la Bibliothèque de Vineuil de nous avoir accueillis. Et puis merci au public d'être venu nous écouter. Je rappelle que vous pouvez entendre notre émission sur Studio Zef. Elle est diffusée le vendredi à 14h. Et tous les nombreux podcasts que nous avons enregistrés sont disponibles sur le site de Studio Zef. Voilà. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Au revoir Catherine, au revoir Hervé, au revoir Lucie, merci de l'accueil.
Au revoir.
Et au revoir à tous.
Au revoir.